Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et la première édition est présentée par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Beaucoup de suspense pour finalement pas grand-chose. On connaît donc depuis hier la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. On y retrouve beaucoup de têtes connues. Tous les détails dans ce journal.
Oui, des habitués mais aussi quelques surprises. La plus grande, la nomination de Pape Ndiaye comme nouveau ministre de l'éducation nationale est déjà cible de nombreuses critiques. Et puis il va y avoir du suspense ce soir, c'est la fin de la Ligue 1 avec la dernière journée de championnat. Tous les enjeux à la fin de ce journal.
Et puis dans la prochaine demi-heure, bien fait pour vous, on parlera de la mémoire et puis l'interview conso avec Jean-Yves Manot de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie. Ce sera à 6h20, réaction bien sûr à ce nouveau gouvernement. Mais tout de suite, bien sûr, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon. Allez-vous bien ?
Je vais très bien. Bonjour à tous. On respire enfin en Alsace et sur un bon tiers nord. La chaleur persiste en revanche du sud-ouest aux régions centre sous un plein ciel bleu retrouvé pour tous.
Tant mieux. Météo complète, allez, dans 7 minutes.
Europe 1.
Bonjour à tous. Beaucoup d'attentes pour finalement peu de changements. Presque un mois après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence, le nouveau gouvernement est enfin connu. Sur les 27 nommés, 14 ministres étaient déjà présents lors du précédent. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Borne a fait des choix, mais il y a surtout des têtes déjà bien connues.
Il voulait à tout prix garder Bercy. Bruno Le Maire reste ministre de l'économie et son portefeuille est élargi aux finances et à la souveraineté industrielle et numérique. Autre poids lourd du précédent gouvernement qui ne bouge pas, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur. Pareil pour Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Sébastien Lecornu, lui, passe des Outre-mer au ministère des Armées. Gabriel Attal cède le porte-parole du gouvernement à Olivia Grégoire. Il est nommé ministre délégué chargé des comptes publics. Marc Fesneau hérite du ministère de l'agriculture. Brigitte Bourguignon succède à Olivier Véran au ministère de la Santé. Olivier Véran qui devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Enfin, il y a des nouveaux arrivants et des surprises. Pape Ndiaye, universitaire agrégé d'histoire, succède à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Jean-Yves Le Drian cède sa place au ministère des Affaires étrangères à Catherine Colonna, ancienne ministre sous Jacques Chirac. Enfin, Rima Abdulmalak, ex-conseillère culture à l'Élysée, succède à Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. 27 nominations au total, et avec la première ministre Elisabeth Borne, ce gouvernement est parfaitement paritaire, 14 hommes et 14 femmes.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le premier conseil des ministres aura lieu dans 2 jours, ce lundi qui marquera aussi le début de la campagne pour les législatives. Les candidatures pour les 577 circonscriptions sont désormais closes depuis hier. Premier tour le 12 juin.
Elisabeth Borne qui sera pour l'occasion en déplacement aujourd'hui en Normandie, dans le Calvados, où elle est candidate, puis elle présidera, comme vous le disiez, son premier conseil des ministres ce lundi. Le thème principal, le pouvoir d'achat.
C'est le sujet brûlant du moment. Alors que la France attend une inflation record cette année, la barre des 10% pourrait être dépassée. Invitée du journal de TF1, hier soir, la première ministre a annoncé les mesures envisagées par son gouvernement.
Le premier projet de loi, il portera sur ces sujets de pouvoir d'achat. Il y a un chèque alimentation sur lequel on travaille. Je vous dis, il y a les mesures pour le bouclier tarifaire qu'on a mis en place sur l'énergie pour stabiliser les prix du gaz et de l'électricité, que les Français ne subissent pas les hausses. Il y a la réduction qui existe sur les carburants, qui sera également prolongée. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont très attendues. Une des personnes que vous avez interrogées le disait sur la revalorisation des retraites sans attendre le 1er janvier, comme ça se fait habituellement, des minima sociaux aussi. Et puis, le triplement de la prime du pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui fera aussi partie de ce projet de loi.
Voilà pour Elisabeth Borne hier soir sur TF1, un gouvernement désormais connu et déjà critiqué par l'opposition.
Oui, Jean-Luc Mélenchon parle du pire, terne et sans audace. L'extrême droite concentre, lui, ses critiques sur Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est sa première en politique. Ce proche d'Emmanuel Macron était auparavant directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Un changement radical après le passage de Jean-Michel Blanquer. Alexis de la Fontaine.
Oui, ce franco-sénégalais, spécialiste de l'histoire sociale et des minorités, est totalement opposé idéologiquement à Jean-Michel Blanquer. Issu de la gauche, Pape Ndiaye est l'un des premiers chercheurs à aborder la cancel culture ou la condition des Noirs en France. Et certaines de ses déclarations font déjà polémique, comme l'assurance qu'il existe un racisme structurel en France et un racisme dans l'État. Ou encore sa volonté de faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale, mais aussi ses prises de position contre versé sur la police, affirmant un déni de la France sur les violences policières. Pape Ndiaye risque donc de mener une politique contraire à celle de Jean-Michel Blanquer, attaché depuis 5 ans à la lutte contre l'islamo-gauchisme et le wokisme à l'école et à l'université. Mais le nouveau ministre ne s'intéresse pas à ces débats, je regarde plutôt la société avec sa diversité et son métissage que certaines chaînes d'infos, affirme-t-il. Bref, sa mission sera avant tout de réconcilier le président avec la gauche et les universitaires.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
La santé à présent, après la pandémie de Covid, s'apprête-t-on à vivre une nouvelle crise sanitaire? C'est la question que l'on se pose après un premier cas d'infection en France à la variole du singe.
Oui, après les États-Unis et plusieurs pays européens, c'est donc au tour de l'Hexagone d'être touché. Cette maladie, qui ne frappe habituellement que plusieurs pays d'Afrique, inquiète les autorités sanitaires, car c'est la première fois qu'elle se développe dans d'autres continents. Elle était considérée jusque-là comme endémique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vocation à se propager. Selon l'OMS, 80 cas ont été recensés partout dans le monde pour l'heure sans gravité.
Johan, on passe au sport et ce samedi, c'est aussi la fin d'un chapitre.
Ouais, on pourrait parler de la fin du feuilleton. Kylian Mbappé, l'annonce de son choix de rester ou non au PSG devrait intervenir dans le week-end. Mais le chapitre en question, c'est la Ligue 1, 38e et dernière journée de championnat ce week-end. Et il y a encore du suspense à tous les étages. Les principaux enjeux avec Jean-François Pérez.
Et c'est évidemment dans le bas du tableau que la soirée s'annonce irrespirable. Bordeaux n'est plus maître de son destin et promis à la Ligue 2, mais qui accompagnera les Girondins à l'échelon inférieur? Peut-être un autre monument du foot français, l'AS Saint-Étienne, qui est à égalité avec Metz. Les Verts, en déplacement à Nantes, doivent obtenir un meilleur résultat que les Messins, qui se rendent à Paris pour ce qui sera peut-être le dernier match de Kylian Mbappé au PSG. Au mieux, Saint-Étienne obtiendra un sursis, une place de barragiste face à Auxerre. Pour le reste, la lutte sera européenne. Opération Ligue des Champions pour Monaco et Marseille. Les Monégasques se rendent à Lens. L'OM accueille Strasbourg. Deux clubs qui visent eux aussi des strapontins européens. Mais ils ne sont pas les seuls. On suivra également Rennes qui jouera à Lille et Nice à Reims. Relégation, Ligue Europa ou Ligue des Champions, le suspense durera sans doute jusqu'à la dernière minute, sauf pour le PSG qui fêtera en grande pompe au Parc des Princes son 10e titre de champion de France.
Jean-François Pérez pour Europe 1. Et à l'étage inférieur, Auxerre a remporté hier le match de barrage face à Sochaux au tir au but et peut encore croire à la montée. Les joueurs affronteront ensuite le 18e de Ligue 1 en match aller-retour. Le vainqueur sera dans l'élite l'an prochain.
Alors on termine avec ce groupe mythique qui fête ses 40 ans.
Vous avez reconnu Thierry, j'en suis sûr. Indochine, le groupe a fait un concert ce soir au Stade de France pour fêter en fanfare son anniversaire. Nicolas Sirkis et sa bande entament ensuite une tournée partout en France. Et dépêchez-vous si vous voulez des places, parce qu'il y a les concerts sont quasiment complets.
Ah ouais.
À Bordeaux, à Marseille, à Lyon et à Paris. Il y a encore quelques places à Paris pour ce soir.
Vous avez des places ou pas?
Absolument pas. Et vous? Je ne crois pas non plus. Okay. Mais on est de tout cœur avec, bien sûr.
Merci, c'était le journal de Johan Tritz. À tout à l'heure, Johan.
Non, ça ne nous rajeunit pas. Ça
non,
nous
c'est rajeunit vrai. Pas. Le temps de votre Samy, Valérie Darmon, à Canary Bay ou ailleurs. En tout cas, c'est le retour du beau pour tous.
Oui, exactement. Hein. Il fait beau partout après les orages d'hier. Le calme qui revient, notamment sur le nord. Le ciel qui sera un petit peu chargé ce matin sur les régions du bord de Manche. Plus variable cet après-midi. Ailleurs, bien dès que le soleil va se lever, c'est grand beau. Au sud, c'est déjà le cas avec soleil et chaleur qui dominent. Quelques entrées maritimes toujours sur le Roussillon. Les minimales contrastées, 19 à Nice à l'heure où on se parle, au même moment 9 degrés à Rennes, 18 à Clermont-Ferrand, 17 à Mulhouse, 15 degrés à Bordeaux, 13 à Aurillac et Strasbourg, 12 à Bourges, 10 degrés à Vannes et la chaleur qui revient cet après-midi avec des valeurs entre 18 à Saint-Brieuc et 36 à Lombres et sous-abri, à Cahors et à Albi.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.